On va voir vite la vie de Galilée. Donc, il naît à Pise, mais il est de Florence. Son père a la passion de la musique. Il fait un peu de commerce, mais finalement, il n'a pas trop d'argent. Donc, il fait tout ce que les parents font dans ce cas-là. Il dit à son fils, tu vas étudier médecine. Et il l'envoie à l'université de Pise. Galilée, à médecine, il s'y plaît pas, il aime les mathématiques, etc. Si bien qu'il rentre à la maison sans avoir terminé ses études, il commence à bricoler des petites machines, des petits appareils, etc. C'est là où il observe les fameux lampadaires dans l'église qui oscillent avec des temps, avec une période constante, indépendamment de l'amplitude de l'oscillation. C'est là qu'il se fait des amis, entre autres Guidobaldo del Monte, qui avait un frère qui était cardinal. Le jésuite Christopher Clavius était le directeur du collège des jésuites de Rome. C'est celui qui a été en charge de la réforme du calendrier, de la réforme grégorienne. Et il avait de très bons rapports avec Galilée. Guidobaldo del Monte, qui était quand même une personne importante à Florence, quand Galilée a eu 25 ans, il obtient une chaire de mathématiques à Pise. Galilée retourne à l'université de Pise, où il avait pratiquement quitté sans âme ni part, on dit en italien, et se met à enseigner mathématiques. Seulement, bon, il était peut-être un peu trop jeune, mais il était certainement très sarcastique et très antipathique. Donc, au bout de quelques années, c'est vrai aussi qu'à l'époque, si vous voulez, le corps universitaire dans le domaine scientifique était tellement ancré à Aristote qu'il pensait même plus de leur tête. Il disait des bêtises tout le temps. On ne faisait plus de la science, on faisait de la pseudo-philosophie. Donc Galilée, il se comporte avec ses collègues, si vous voulez, plus anciens, automatiquement, d'une façon assez vivace. Et à un moment donné, il faut qu'il parte. Surtout que son père décède et Galilée se retrouve une famille à charge. Les sœurs, son frère qui n'a jamais gagné un rond, qui a fait que de dettes et qui a dû subventionner toute sa vie. Et là, donc, les frères de Guidobaldo del Monte, qui était le cardinal, lui procure une chaire à Padoue. Galilée va à Padoue. Il devient professeur à Padoue, c'est pour ça que tout le monde a fait le l'adore. Il y reste 18 ans. Padoue étant une ville qui appartenait à la ville de Venise, je vous rappelle que Venise, on avait chassé les jésuites tout de suite, donc la République de Venise affichait une certaine indépendance par rapport à l'Église catholique. Si bien que Galilée et ses collègues universitaires pouvaient travailler tranquillement, et faire à peu près ce qu'il voulait. Son salaire était très réduit. Il touchait 200 ducats. À la fin de 18 ans de carrière, il touchait 500 ducats. Il touchait un dixième de ce qu'était le salaire d'un prof de médecine, par exemple. Donc, Galilée logeait des étudiants chez lui, donnait des cours particuliers. Il avait monté un petit atelier où il construisait des instruments pour les vendre. Ça, c'est ce que tous les bons physiciens de Padoue font depuis. On a toujours son propre atelier de mécanique avec un mécanicien dedans. Et en 1609, donc, telle est la situation, quand en 1609, Galilée voit ou entend dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, que en mettant deux lentilles dans un tube, on peut agrandir les objets éloignés. Donc, il bricole un peu à son compte, il construit tout de suite une jumelle, une longue vue, qui agrandissait 7 fois. Il convoque le Sénat de Venise sur la campagne de Saint-Marc en août 1609. Il leur dit, voilà, regardez cet exemple, ce que j'ai inventé. On peut voir le navire arriver 4 heures avant qu'il se manifeste au port, et si c'était des ennemis, on les verrait 4 heures avant. Les sénateurs vénitiens sont enchantés, ils lui doublent le salaire, et ils les nomment professeur à vie à Padoue. Seulement, comme ils ne sont pas tout à fait stupides, ils lui doublent le salaire, mais à partir de la fin de l'année, pas tout de suite. Deux, trois mois après, la soi-disant invention de Galilée se vendait dans la rue de Venise et tout le peuple vénitien se fendait la gueule en sachant que le Sénat avait payé 1000 ducats, si vous voulez, pour cette espèce de petit jouet. Donc, Galilée s'était mis dans une impasse. Ça, vous le lisez nulle part, mais je ne pense pas me tromper. Vous devez savoir que le gouvernement de Venise ne rigolait pas du tout. Même s'il n'y avait pas l'Inquisition, c'était très, très, très strict. Donc, Galilée, en ayant vendu comme son invention quelque chose qui ne l'était pas, il était vraiment en mauvaise posture. Il n'avait qu'une possibilité, c'était de déguerpir. Bon, entre-temps, il avait construit des jumelles qui agrandissaient plus. Il faut savoir qu'il faut arriver à un agrandissement de 20 pour découvrir vraiment quelque chose dans le ciel. Bon, lui, il était arrivé à un jumelle qui agrandissait 30 fois. Et à la fin de l'année 609, il tourne sa jumelle vers le ciel, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça, hein. Il faut mettre un trépied, il faut bien regarder et tout. D'autant plus que ce jumelle, si vous voulez, c'était des fonds, je ne l'ai pas, mais c'était des fonds de bouteille. C'est-à-dire, la lentille était comme ça. Et si vous voulez, le polissage, c'était pas de la haute qualité. Ça lui procurera d'ailleurs bien des problèmes après. Donc, il regarde le ciel, et là, évidemment, c'est l'émerveillement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la Lune est pleine de, sur la Lune, il y a plein de montagnes, d'irrégularités, etc. On dirait la Terre, un désert sur la Terre, vous voyez. Il faut savoir que la théorie courante à l'époque disait que la Lune était une sphère de cristal poli. Et tous les astres aussi, d'ailleurs. Il voit que la Voie lactée n'était point une Voie lactée, mais c'était un amas incroyable d'étoiles. Il faut savoir qu'à l'œil nu, on croit voir beaucoup d'étoiles, mais on en voit 2000. Et avec une jumelle qui a grandi comme ça, on en voit 10 fois autant. Donc, c'est la merveille. Et il voit aussi quelque chose. Voilà. En bas, à droite, vous voyez ce qu'a vu Galilée. C'est Jupiter avec 4 petites étoiles à côté. Alors, Galilée dit, j'ai découvert de nouvelles étoiles, parce qu'avant, on ne les voyait pas. Et puis, en suivant, il regarde à nouveau au fil des jours, et il voit que ces soi-disant étoiles bougent. C'est-à-dire, tantôt elles sont de côté, tantôt elles sont de l'autre. Et là, c'est vraiment le coup de génie. C'est-à-dire, on a beau dire Galilée a tourné le jumel vers le ciel, il faut encore comprendre ce qu'on voit. Il voit que ces astres qui bougent sont dans le même plan de l'elliptique, c'est-à-dire dans le même plan de l'orbite de Jupiter et de la Lune et du Soleil, etc. Et il comprend que c'est des satellites de Jupiter. À l'époque, le mot satellite n'existait pas encore, mais il les appelle de Lune ou des astres vagants. Et il a l'idée. Bon, ayant fait ces magnifiques découvertes, il s'est dit, il vaut mieux que je l'écrive tout de suite, parce que finalement, tout le monde peut fabriquer une jumelle. Et en effet, en Europe, il y avait d'autres personnes qui partout étaient en train de regarder le ciel de la même façon. Donc il a l'idée d'appeler ces nouvelles étoiles, de les appeler les étoiles de Médicis. Il voulait lécher jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il voulait les appeler les étoiles de Côme cosmiques, étant donné que Côme je ne sais plus lequel, deux ou trois, était le grand-duc de Toscane, mais l'autre lui dit non, appelle les Médicis, parce que comme ça, ce sera toute la famille. Et, évidemment, il a appelé à Florence, d'urgence, et il résout ce problème économique d'un coup, parce que non seulement il reçoit un riche salaire, mais il est dispensé d'enseignement, donc il a vraiment tout le temps de faire ses observations et de s'occuper de la science uniquement. Alors, quelle est la réaction de Galilée à ce moment-là? Ici, c'est le dessin de Galilée même, donc de la Lune. Il n'était pas si bête que ça. Quand il a... En observant la séparation entre la zone de lumière et d'ombre sur la Lune, il a vu de petits points lumineux dans la zone d'ombre. Il a dit que c'est des montagnes. Il a calculé la hauteur de ces montagnes. C'est un petit problème géométrique, hein, c'est ça, rien du tout, mais il faut y penser. Maintenant, c'est les étudiants qui le font. Peu après... Mais ça, c'est déjà l'année suivante. Donc, il découvre aussi, finalement, l'explication des phases de Vénus. Il faut savoir que Vénus, normalement, devait avoir des phases comme la Lune. Donc, elle aurait dû tantôt être plus brillante et tantôt disparaître. Et on comprenait pas pourquoi. Et Galilée a compris que... En croyant dans le système de Copernic, la Vénus donc est entre la Terre et le Soleil, donc elle est non seulement sujette à avoir des phases, mais elle est tantôt plus proche de la Terre et tantôt plus loin. Et il se trouve, par hasard, que quand elle est plus proche de la Terre, c'est là où il y a la Vénus neuve, c'est-à-dire qu'elle est complètement obscure. Quand elle part, il y a juste une petite lune de Vénus qui apparaît, mais elle est très près, donc c'est très brillant. Et quand elle est pleine, elle est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, donc elle est beaucoup plus loin. Et ça, c'est l'explication du pourquoi on voyait Vénus toujours avec la même intensité. Personne ne pouvait comprendre. Ça aussi, si vous voulez... Il a compris, mais alors là, c'était déjà plus subtil, il n'était pas tout à fait sûr de son affaire. Alors, il a inventé un nouveau système. Il écrivait une phrase en latin, en disant que les phases de Vénus ressemblent aux phases de la Lune. Il faisait un anagramme, et il envoyait à l'ambassadeur Médicis à Vienne, ou à Prague, pardon. Le malheur veut qu'à Prague, il y avait Kepler, qui se trouvait en face de cette espèce d'anagramme et qui travaillait 15 jours, 3 semaines pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre racontait. Et il n'y arrivait pas. Et ça continuait un bon moment, c'est-à-dire que Galilée n'a jamais rien dit à Kepler, rien du tout. Et mais il avait trouvé, comment dire, une façon de mettre un tampon sur sa découverte. Si ça marchait pas, bon, ça faisait pas de dégâts, mais si la découverte se confirmait, il avait une priorité, parce qu'il avait une lettre officielle qui disait « je l'ai communiqué en tel ». Donc, Galilée, à ce moment-là, à partir de 1610, il a une réaction qui est très humaine. Je l'ai vu dans quelques prix Nobel aussi. Si vous voulez, vous arrivez à 42 ans, ou 43, vous recevez le prix Nobel, vous avez l'argent, vous avez la gloire, etc. Bon, vous estimez que vous avez assez donné. Et vous vous mettez à faire la belle vie, c'est-à-dire, vous rencontrez les gens importants, vous faites les voyages, on vous cherche dans tous les salons, etc. Et c'est exactement ce que Galilée fait. Pendant 20 ans, il ne fera plus rien. Mais il continue de fabriquer des jumelles assez puissantes et il en fait cadeau aux puissants, c'est-à-dire l'empereur, les grands-ducs de Florence, etc. Jamais Kepler, par exemple, Kepler pleurait pour avoir une jumelle, pour pouvoir voir aussi. Rien à faire. Ensuite, Galilée passe un moment un peu pénible, un peu difficile au départ, parce que les scientifiques mettaient en doute ce que lui, il voyait. Parce que s'ils essayaient, eux, avec une jumelle, ils voyaient rien. Donc, il y a eu des réunions de professeurs d'université où, avec 12 professeurs, Galilée était censé montrer à ces gens qu'est-ce qui est les nouvelles découvertes, et personne ne voyait rien. Donc, les gens écrivaient, mais ils racontent des histoires, c'est un instrument qui montre de lucioles, etc. Donc, la seule personne qui lui est venue en secours à ce moment-là, c'est Kepler. Kepler, sans avoir rien vu, sous la seule confiance, a écrit un bouquin pour dire, d'ailleurs, il pouvait rien dire de concret, mais il a fait un dithyrambe en disant que les découvertes de Galilée étaient exceptionnelles, etc., etc. Et entre-temps, il continuait de lui demander, mais envoie-moi des jumelles, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vraiment prouver. Pour finir, Kepler aura une jumelle. C'est une jumelle qui avait été envoyée au grand-duc d'Autriche, je ne sais pas quoi, et que l'ambassadeur de passage a bien voulu prêter à Kepler pendant 15 jours. Alors Kepler regarde, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il confirme son opinion sur le découvert de Galilée, et il fait la théorie du télescope, c'est-à-dire la théorie des jumelles. Parce que Galilée, il avait fabriqué des jumelles, mais était incapable d'expliquer le fonctionnement. Il fallait Galilée était génial, mais il n'était pas un mathématicien vraiment exceptionnel. Alors que Kepler l'était. Il fallait donner une explication mathématique. Donc, ça va un peu vite sur Galilée. Pour l'écran, mais en biographie, on peut dire un peu plus. Donc, Galilée, pendant tout ce temps, à chaque fois où il écrit quelque chose, c'est pour insulter quelqu'un. Et, pour une raison, pour les raisons les plus stupides d'ailleurs, faut dire aussi que j'oublie pas, tout de suite, l'année après sa découverte, en 1611, il a été invité à Rome, il a passé un mois, il a fait un triomphe, tous les cardinaux, les papes, il a été nommé membre de l'Académie de l'INSEE, donc il a eu vraiment, les jésuites qui ne croyaient pas, a priori, à ses découvertes, ils ont constaté, ils ont vu les étoiles, donc Galilée était un dieu. Et après, il se met à dos petit à petit tout le monde. Il y a un jésuite autrichien, donc Scheiner, qui tout à coup dit avoir observé des taches sur le soleil. Et un banquier, Marcus Wells, qui était le protecteur de ce jésuite, écrit à Galilée une fois en disant « Regardez, il y a quelqu'un qui a vu des taches sur le soleil. » Galilée ne répond pas. 4 semaines après, il a écrit encore une fois, dit « Mais qu'est-ce que vous dites des taches sur le soleil ?» Mais Galilée répond aussi sec que les taches, lui, il les avait vues un an et demi avant, seulement il n'en avait pas parlé. Et que donc c'était sa découverte, c'était pas la découverte du bon monsieur Scheiner. Donc, il refait la même chose un peu de temps après pour un père Horatio Grassi, qui le pauvre a eu le malheur en voyant arriver une comète, il a dit ah, la comète, comment expliquer Tycho Brahe, c'est un corps qui vient de loin, qui passe près du Soleil, puis qui s'en va loin en traversant toutes les orbites du planète. Galilée est devenu une furie. L'autre, il avait osé voir quelque chose dans le ciel, regardait quelque chose dans le ciel alors que c'était son domaine. Et en plus, il n'avait pas cité le nom de Galilée en parlant de la comète. Donc, il fait une publication horrible dans laquelle il dit que d'abord, les comètes ne sont pas des corps célestes, mais sont de vapeurs dans l'atmosphère. Et puis, il couvre d'insultes ce pauvre Père Grassi. À ce moment-là, vraiment, l'Église commence un peu à se préoccuper. D'autant plus que Galilée, rappelons-le, il avait écrit ses œuvres en italien et non pas en latin, qui étaient des œuvres où le contenu mathématique était pratiquement absent, donc c'était des choses, par exemple, les Sidereus Nuncius, les messagers célestes avec lesquels il annonçait sa découverte, les gens les lisaient en une heure, alors que pour lire Copernic, il fallait 10 ans. Donc, c'est les affirmations de Galilée et ses découvertes et ses écrits commençaient à porter très loin, commençaient à porter sur les nerfs des dominicains de Florence, par exemple, qui ont commencé à l'église à dire, mais faut pas toujours courir après les théories de monsieur Galilée, etc. Alors, il se fâche, il écrit au supérieur des dominicains qui lui répond, écoutez, j'ai 40 000 frères qui prêchent partout dans le monde, je peux pas être responsable de toutes les anéries qui dit tel ou tel. Et finalement, Galilée est appelé à Rome où on lui dit d'arrêter de propager la théorie copernicienne comme si c'était une vérité. Et surtout, on lui dit de ne plus dire que la théorie de Copernic n'était pas contraire aux Écritures. Parce qu'à un moment donné, Galilée, il est passé du plan scientifique au plan religieux, parce qu'une des objections qui était faite à ces théories était que dans la Bible, c'est écrit que le soleil s'est arrêté à un moment donné quand Josué ou je ne sais plus qui a dit « Soleil, arrête-toi ». Donc, et Galilée disait « Mais les Écritures, il faut savoir les interpréter ». Alors, les religieux disent, attention, toi, tu peux écrire ce que tu veux, mais tu restes en dehors de la sacristie. Occupe-toi de tes lunes, mais ne parle jamais d'écriture. Donc, Galilée, à ce moment-là, s'en tire assez bien, parce que finalement, on lui fait rien, on lui fait même pas de réprimande. Les livres de Copernic est retiré du commerce au grand dam de Kepler, qui dit, mais ensemble, ça fait 8 ans ou 80 ans qu'on lui disait en paix, qu'il fallait que cet autre babouin-là s'en mette pour qu'on puisse plus lire Copernic. Néanmoins, le livre de Copernic a été juste un peu modifié. On a supprimé 2 ou 3 phases qui parlaient des écritures ici et là. 4 ans après, il était à nouveau disponible, sauf que dans les 300 ans qui ont suivi, plus personne a voulu l'imprimer parce que dans ces discussions avec les jésuites à Rome, et aussi pendant à la fin de son procès, Galilée a fait une grosse erreur. Il avait inventé une théorie des marées, alors que le mécanisme des marées avait déjà été expliqué correctement par Kepler. Mais Galilée n'a jamais lu Kepler. Pas un mot. Il n'en a jamais parlé. Les découvertes de Kepler, qui, rappelons-le, était son contemporain, donc il était né après et il mourra avant. Et pour les marées, Galilée s'était inventé une théorie comme quoi, étant donné que la Terre tourne autour du Soleil, étant donné que la Terre tourne autour d'elle-même, il y a un changement de vitesse entre le jour et la nuit, donc justement sur 24 heures. Parce que pendant les jours, si vous voulez, la vitesse des rotations de la Terre se soustrait à la vitesse orbitale, et pendant la nuit, elle s'ajoute. Alors déjà, en 1616, on lui avait dit, mais écoute, ta théorie des marées ne tient pas debout. Il s'est entêté, Et quand en 1633, il ira au procès, son argument secret sera encore la théorie des marais. Et donc, il se fera décapiter. En 1623, il y a un coup de chance, c'est-à-dire que le cardinal Barberini, qui était un grand ami de Galilée, devient pape. Urbain VIII. Donc Galilée va à Rome, il les rencontre six fois, et qu'il les embrasse, etc. Et finalement, le pape lui dit, mais tu veux écrire tes travaux, écris, mais n'affirme pas que la théorie copernicienne est une vérité, tu présentes une théorie, tu présentes l'autre, et tu laisses les gens juger. Et Galilée, pas convaincu, dit, mais non, elle est fausse la théorie de Ptolémée, elle est fausse. Il écoute, alors le pape, il a un coup de génie, il dit, écoute, moi je suis le pape, et je te dis que Dieu est tout puissant, et il a certainement différentes façons de nous faire voir les choses, autre que ce que nous croyons comprendre. Si vous voulez le croire, à la fin du dialogue sur les deux grands systèmes, les trois personnages qui discutent entre eux sur les deux systèmes de Ptolémée et de Copernic, donc un s'appelle Simplicius, donc c'est vraiment les simplets. L'autre c'est Salviati, c'est le scientifique, c'est Galilée, et le troisième c'est Sacredo, c'est un homme de culture, si vous voulez, qui fait semblant d'être neutre. À la fin du bouquin que Galilée publiera suite, mais quand même plusieurs années après, Simplet a été ridiculisé 20 fois pendant le livre. À la 21e, ne sachant plus quoi faire, il sort l'argument du pape. Il dit, mais une personne très très considérable, une grande autorité, etc., a dit que Dieu peut quand même nous montrer des choses d'une façon différente de ce qu'elles sont vraiment. Alors les deux autres se lèvent, ils disent, quand c'est comme ça, on va prendre un café. Et ils s'en vont. Et ça, c'est la fin du dialogue sur les deux systèmes du monde. Qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive à ce moment-là à Rome quand les livres sortent? D'autant plus, je ne l'ai pas dit ici, mais Galilée, il a fait une tricherie inimaginable pour avoir le permis d'imprimer. C'est-à-dire, le pape lui avait dit, tu écris ton livre, mais il lui avait quand même dit, avant tu le montres à un tel à Rome. Un tel, c'était un père Riccardi, Nicolas Riccardi, qui avait trois défauts. D'abord, il ne connaissait rien à l'astronomie. Deuxièmement, il était gourmand. Il avait un tel ventre que le roi d'Espagne l'avait baptisé de père monstre. Et troisièmement, il avait une magnifique cousine qui avait marié l'ambassadeur de Florence à Rome, où il était invité tout le temps. Donc, j'oublie, quatrième défaut, il était florentin. Donc, vous voyez partir une opération concentrique pour obliger ce pauvre père monstre à donner l'autorisation d'imprimer à Galilée avant d'avoir lu le bouquin. Finalement, devant le dernier riche repas, il accepte, et puis les jours après, il en remorque et dit, je voudrais quand même écrivez, mais laissez-moi envoyer quand même les pages une à la fois avant que je les passe à l'imprimeur. Sur ce fait, il se déclare la peste à Rome. Donc, isolation entre Rome et Florence, les pages ne peuvent plus arriver. Alors, Galilée commence à pester, à dire, mais vous me retardez les travaux, etc. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un à Florence qui fasse cette vérification. Et donc, il dit, bon, d'accord. Il nomme l'inquisiteur de Florence, le représentant de l'inquisition. Galilée dit, non, non, celui-là, il ne me plaît pas. J'en veux un autre. Il prend un petit prêtre qui, mort de reconnaissance, si vous voulez, par l'honneur que Galilée lui faisait, il a tout lu, puis il a mis, paf, le tampon. Oui. Donc, à Rome, quand le livre sortit, non seulement il se sont aperçus que Galilée avait triché, dans le sens qu'il présentait la théorie de Ptolémée comme complètement fausse, et la théorie de Copernic comme la seule vraie, il s'était foutu du pape, et en plus, il avait triché pour avoir l'imprimatur. Ceci dit, le tribunal de l'Inquisition n'était pas composé d'enfants de cœur. Une fois que Galilée a mis les doigts dans l'engrenage, alors la vengeance a été dure et longue. C'est-à-dire, un procès, c'est un procès, condamnation, c'est une condamnation. Je pense que Newton et les restes, on va se les garder pour Noël. Donc, vous voyez tous ceux que l'Église a fait à Galilée par la suite. Il a été prisonnier chez le cardinal de Sienne. Le cardinal de Sienne était un grand admirateur, donc il organisait de soirées où Galilée pouvait encore éblouir le monde, etc. Quand l'Inquisition a su ça, il dit non, maintenant tu vas à Florence, tu prends ta maison, et si tu veux recevoir quelqu'un, tu nous demandes la permission. Et si c'est quelqu'un est un scientifique ou une personne importante, on va mettre un prêtre qui assiste à la visite. Ensuite, on décolle un élève, Vincenzo Viviani, qui heureusement devient un élève affectionné, mais qui était un espion, en effet. Quand il meurt, la ville de Florence, le gouvernement de Florence voulait l'enterrer à Santa Croce, où il y a toutes les grandes personnalités de Florence. L'Église a dit non. Et finalement, tout le monde sait qu'il a été réhabilité en 92, mais ceux qui ont suivi la chose peut-être s'en rappellent. Le premier acte que l'avant-dernier pape a fait en accédant au seuil pontifical a dit il faut réhabiliter Galilée. 11 ans après, la commission était encore en train de discuter. Le pape est allé personnellement chez le collège qui a dit maintenant vous me les réhabilitez, d'accord? Et à ce moment-là, ils ont décidé que comme il n'y avait pas eu de condamnation, il n'y avait rien à réhabiliter. Non? Oui? Ça, c'est un dessin de... j'oubliais. Si Galilée n'avait pas été condamné, il nous aurait rien laissé de valable scientifiquement. Alors que quand il a été prisonnier dans sa maison, il a écrit 2 livres magnifiques. Finalement, il a écrit ce qu'il connaissait sur le mouvement de projectiles, sur la chute de corps pesants, etc., etc. Il a écrit 2 livres de science. Et il y a un petit dessin de Galilée qui est intéressant parce que, vous voyez, je reviens un peu en haut pour voir qu'est-ce qui se passe quand on tire un coup de canon depuis une hauteur. Et puis Galilée se demandait, mais qu'est-ce qui se passe si mon canon est toujours plus puissant? Eh bien, il se passe que le projectile va faire le tour de la Terre, il va revenir au point de départ. Alors, là, Galilée a énoncé un principe d'inertie qui était faux, parce qu'au lieu de dire qu'un corps libre de force externe continue en ligne droite, il a dit un corps libéré de forces externes décrit un cercle, une circonférence. Mais en somme, si vous voulez, imaginez la tête de Newton tout jeune quand il a vu ce dessin. Bien. Alors écoutez, je vais aller à la fin.
Honneur. Si je savais.